Jean Rigal, Une mémoire, 25e. Une émission présentée par Joël Coste. Bonjour Jean Rigal.
Bonjour Joël, bonjour David, bonjour à tous les auditeurs de CFM.
Voilà, cette série d'entretiens devrait arriver à son terme et il faut croire que la mémoire s'élargit quand le passé devient de plus en plus récent. Alors, nous continuons, d'autant plus que nous abordons une période où vous entamez un nouveau mandat, donc qui va durer 5 ans, le mandat de député, donc on a déjà bien abordé lors de la dernière émission, 97-98. Et ce mandat, vous l'avez qualifié de très important, parce que c'était le seul, hein, puisque vous étiez démis des deux autres, celui de conseiller régional et celui de maire de Villefranche, étant entendu que vous restiez au conseil municipal. Donc, nous avions commencé à aborder, lors de la dernière émission, les actions que vous avez accompagnées dans la circonscription. Et il en est une qui reste d'actualité, puisque sur le même thème de la défense de l'hôpital, une manifestation va se dérouler ce dimanche 30 mai. Jean Rigal, pouvez-vous rappeler la genèse de cette intervention en 1998 ?
Oui, bien sûr. Lorsqu'on compare ce qui se passait à cette époque-là et ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut que constater que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et que les ministères se succèdent et continuent allègrement à vouloir détruire les hôpitaux de proximité. Donc en 97, alors que les agences régionales d'hospitalisation, qui viennent aujourd'hui d'être remplacées par les agences régionales de santé, qui se proposent de toucher non seulement aux hôpitaux maintenant, mais à la santé sous tous ses aspects, on peut se remémorer que l'hôpital de Cazeville avait été informé de l'approche suppression de sa maternité, au motif qu'elle ne faisait pas 300 accouchements par an et que par conséquent, il y avait là un aspect d'insécurité, etc. Alors que dans les grandes maternités faisant des milliers d'accouchements, selon les experts, je mets ça entre guillemets, il y aurait davantage de sécurité. D'abord, c'est faux. C'est faux parce que dans les grands hôpitaux, dans les grandes maternités, ce n'est pas le même accoucheur qui fait tous les accouchements, dont le nombre d'accouchements est forcément limité. Donc, c'est faux. Et puis ensuite, les gens qui exercent dans les hôpitaux de proximité ne sont quand même pas dépourvus ni de bon sens ni de savoir. Et ils savent très bien que lorsque un accouchement paraît devoir être difficile, lorsqu'il y a des grossesses à risque, eh bien, ils envoient les parturientes dans des hôpitaux plus spécialisés. Donc tout ça, ça a uniquement le but de faire des économies.
Rentabilité. Oui.
Et l'État porte une très lourde responsabilité parce qu'il fait comme s'il n'avait aucune responsabilité dans l'organisation de la santé. Alors que c'est tout de même lui qui détient la responsabilité principale. Il fait comme si ces hôpitaux, tous ces hôpitaux, petits ou plus importants, étaient en quelque sorte des sous-traitants privés à qui on donnerait un os à ronger ou à qui on le retirerait à volonté d'une année à l'autre ou presque. Ce n'est pas supportable pour les populations. Et la population du bassin, de Cazeville-aux-Bains, c'est littéralement révolté là-dessus. Hein, donc, dès l'annonce de cette perspective, les syndicats des personnels hospitaliers se sont organisés en intersyndicale et ce mouvement a pris de plus en plus d'ampleur.
Oui, ça a débordé largement.
Et je dirais heureusement. Hein. Alors, c'est en 98 que est intervenu un décret de Bernard Kouchner, qui était ministre de la Santé à l'époque.
Dans un gouvernement de gauche.
Dans un gouvernement de gauche. Bon, depuis, il a pris la tangente, hein, et pas la bonne. Mais il a pris cet arrêté concernant les 300 accouchements par an. Et ça avait l'air d'être vraiment un couperet. Et c'est là que s'est constitué l'intersyndical et même le comité élargi. C'est pour ça que moi j'en ai fait partie, alors que je n'étais ni personnel hospitalier, ni syndicaliste hospitalier. Et j'ai été invité, et j'ai accepté très volontiers, à participer à ce comité. Et ce comité de défense de l'hôpital est devenu, un peu plus tard, par la nécessité des choses, tous ensemble pour le bassin, pour la défense du bassin. Et ça a été une très très bonne chose. Je vois qu'aujourd'hui, ils se remobilisent, ils n'ont jamais d'ailleurs cessé de se mobiliser, mais ils se mobilisent de nouveau très très fort pour faire face à la situation actuelle où on envisage de leur retirer des agréments. Hein. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le ministère de la Santé ne reconnaît pas qu'il a des services de santé publics à l'intérieur d'un hôpital, en l'occurrence l'hôpital de Cazeville, et qu'il se réserve la possibilité de les rayer d'un trait de plume du jour au lendemain, parce que cette formule ne lui plaît plus. Hein, moi, je dis que c'est un abandon. C'est un abandon de responsabilité face à la santé.
Oui, ce qui est intéressant dans cette mobilisation, bon, au-delà de votre rôle de député, c'est que ça a dépassé rapidement le corporatisme. On a dépassé simplement la mobilisation du personnel hospitalier, et c'est d'ailleurs grâce à ça que il y a eu la victoire, c'est-à-dire la conservation de la maternité dans un premier temps.
Bien sûr. Oui. Alors, il y a eu une énorme manifestation, je pense que c'était en octobre de 98, où il y a eu 7000 personnes sur la place de Cazes, qui était donc noire de monde. 7000 personnes, ça fait pas loin de la population de Cazeville, qui malheureusement, depuis un certain nombre d'années, avait perdu beaucoup d'habitants. Hein, et je crois que ça a vraiment été un élément décisif dans ce qui s'est passé. Finalement, l'hôpital de Cazeville a pu conserver sa maternité. Entre-temps, d'ailleurs, le nombre d'accouchements a augmenté. Il a dépassé les 300 en Texas, bien entendu, mais il les dépasse chaque année. Donc, cette règle des 300 ne lui est pas applicable. C'est-à-dire que le ministère essaie de trouver maintenant autre chose. Hein. Elle est là, elle est bien présente. Mais je pense qu'il va y avoir une très très grosse mobilisation, comme c'était faite à l'époque la mobilisation pour l'hôpital, et ensuite pour toute la situation du bassin, où on voyait les services publics menacés ou supprimés les uns après les autres.
Oui, vous avez participé à une autre intervention pour la sauvegarde de la gare de Cransac, où il y a eu
une
grosse mobilisation.
Là, c'est le tous ensemble pour le bassin, oui, voilà. Qui, en gare de Cransac, a stoppé un train autorail qui est resté en gare pendant 13 jours. Hein. Si on m'avait un jour dit, quand j'étais gamin et que j'allais prendre le train à la gare de Cransac pour partir au lycée Foch à Rodez, qu'un jour je ferais partie d'un groupe qui arrêterait le train dans cette gare, j'aurais vraiment cru que j'hallucinais. Et pourtant, ça s'est passé.
Oui, ça l'a maintenu, mais un temps, simplement.
Ça a maintenu la gare de Cransac un temps. Ça a encore été un grand coup frappé. Mais ça nous a permis aussi, ça a permis tous ensemble, petit à petit, d'établir des contacts avec les services et le cabinet du Premier ministre Lionel Jospin, qui nous avons été reçus en mai 2000, en vue d'un comité d'aménagement national d'aménagement et de développement du territoire, qui a quand même décidé d'un certain nombre de mesures, et notamment d'apport de crédit, pour remettre en selle, autant que faire se peut, le bassin de Casseville. Et un certain nombre de ces mesures ont été exécutées, ce qui a eu des aspects positifs, et il y en a encore, dans le tout ensemble, et les municipalités du bassin, et la communauté de communes du bassin de Casseville-Aubin s'efforcent d'obtenir la mise en œuvre. Hein. Bon, il est certain que avec les politiques d'austérité que met en place le gouvernement Fillon, on risque encore de leur contester certains crédits qui n'ont pas été versés et qui sont en quelque sorte dus. Parce que moi, je considère que dans la vie publique, lorsqu'un crédit est décidé, il est sacré. Et que c'est un sacrilège de vouloir le geler et plus encore le biffer définitivement.
Voilà, on va respirer un petit peu avec Higelin et on reprendra cette discussion.
Moi j'arrose les roses au fond de mon jardin. Je lis plus les journaux, alors j'ai peur de rien. La télé, la radio, c'est que du mou de veau pour les chiens. Y a trop de gens sur le carreau. La faute à la crise mondiale. Tout le monde veut savoir où on va. Ça s'arrangera pas de sitôt. Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.
En train de s'étouffer, valse MF. Donc on a parlé du Tous Ensemble qui s'est organisé pour la défense de l'hôpital et au-delà, mais il y avait un autre service public qui était en danger, et là il y a eu des mobilisations aussi bien à Villefranche qu'à De Casseville. À Villefranche et à De Casseville, c'était le commissariat. Alors il y a eu une information qui a été faite par les policiers locaux, hein, avec une information presque au porte-à-porte, et puis la mise en place d'un comité de soutien.
Oui, bien sûr. Là aussi, ça c'était en 99. Le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense ont fait savoir que on envisageait certains regroupements de suppression de commissariats et de brigades de gendarmerie, avec un échange de bons ou plutôt de mauvais procédés entre les deux services, les commissariats police nationale relevant du ministère de l'Intérieur et les gendarmeries relevant du ministère de la Défense nationale. Et très rapidement, il est apparu qu'en région Midi-Pyrénées, il y avait une douzaine de commissariats qui étaient menacés hein, notamment dans les petites sous-préfectures ou dans les chefs-lieux de canton. Et dans l'Aveyron, c'était le cas de Casseville, de Villefranche, mais dans le département voisin, c'était le cas de Figeac, c'était le cas ailleurs de Groyé, c'était le... etc., etc. Et, bon, bien entendu, à titre personnel, je suis intervenu, moi, auprès de Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, également auprès du ministre de la Défense nationale, qui était Alain Richard. Et puis, localement, effectivement, les professionnels concernés ont mobilisé les populations, et les élus ont mobilisé également les populations. Et finalement, un expert, un conseiller d'État a été désigné pour rencontrer tous les élus des villes concernées à travers la France. Et ces conclusions ont incité le gouvernement Jospin à la prudence, et il n'y a pas eu à ce moment-là de suppression ni de retrait. Mais disons que 3 ans plus tard, ou 4 ans plus tard, lorsque, après la réélection de Chirac à la présidence de la République, les gouvernements de droite ont repris le flambeau, ils l'ont fait de plus belle, et je revois une très importante manifestation à la sous-préfecture de Villefranche pour la défense du commissariat, hein. Et l'ineffable Serge Roch, qui en 99 tombait à bras raccourcis sur les élus de gauche à qui ils reprochaient de ne pas savoir défendre leur commissariat, a dû se résigner à le voir fermé, avec une compensation extrêmement partielle par un apport de gendarmes, car il y avait tout de même au commissariat de Villefranche plus de 45 policiers. Et donc, ça faisait une perte importante pour l'organisation de la sécurité à Villefranche, étant donné que la gendarmerie avait auparavant une compétence principalement sur les communes rurales du canton, et qu'elle a dû assumer les responsabilités sur la commune considérée comme urbaine.
Commune de Villefranche dans son ensemble. Est-ce que c'est la fermeture du commissariat qui a nécessité la construction d'une nouvelle gendarmerie, ou c'était prévu auparavant ?
Ou je pense que ça a pu précipiter les choses, parce qu'il est certain qu'il y a davantage de gendarmes que ce qu'il y en avait. Il y avait d'ailleurs déjà des gendarmes, et il y a toujours des gendarmes qui ne sont pas logés dans les locaux de la gendarmerie, qui sont... qui occupent des appartements loués par la gendarmerie et mis à leur disposition en divers endroits de la ville, hein, notamment dans le secteur pavillonnaire du Tricot, hein, pavillon HLM du Tricot, où il y a traditionnellement des gendarmes, mais d'autres aussi. Et je pense que les deux choses sont indirectement liées, mais... il y a eu, pour réaliser cette gendarmerie, il y a eu une précipitation qui, totalement anormale à mon avis, qui a conduit toutes les autorités concernées dans le dossier à se précipiter, sauf l'État, qui a abandonné là aussi ses responsabilités, pour lancer un partenariat public-privé. Hein, c'était le grand nada de Jean Puech, hein, le partenariat public-privé qu'il revendiquait pour les routes et qui s'est, un peu partout, terminé par des résultats désastreux. Le résultat de la nouvelle, entre guillemets, parce qu'elle commence à devenir ancienne, même si elle n'a jamais servi, de la nouvelle gendarmerie de Villefranche étant sans aucun doute le plus désastreux que l'on puisse voir, hein, puisque Moi, chaque fois que je passe à côté de ce triste, pas encore champ de ruines, mais j'appelle ça les ruines de Merlin-Plage, pour caractériser aussi l'inesthétique de cet ensemble.
Oui, que pensez-vous des nouvelles informations qu'on a concernant l'avenir de la gendarmerie, la réunion à la sous-préfecture ?
À mon avis, moi je ne crois pas du tout à la remise au retour de l'État dans le circuit. Je pense que l'État essaie de faire croire qu'il va enfin s'intéresser à ce problème qui le concerne au premier chef. Car la gendarmerie, c'est tout de même un grand service de l'État. Et en particulier, une branche particulièrement prestigieuse et appréciée du ministère de la Défense nationale. Alors je crois que, localement, les représentants de l'État, bon, qui font ce qu'on leur demande de faire, hein, moi je me garderai bien d'incriminer un préfet, un sous-préfet, une préfète ou une sous-préfète. Mais j'incrimine fortement ceux qui leur donnent les ordres. Hein, et qui, effectivement, pour moi, les ont chargés de créer un rideau de fumée pour retarder le dévoilement de ce qui est à mes yeux. Et sous tous les aspects, que ce soit sur celui de la maîtrise foncière, sur celui de l'immobilier, sur celui des finances, sur celui de l'organisation juridique d'une SCI et du non-respect par cette SCI d'un certain nombre de législations pour la mise en vente des pavillons qui devaient être, je le rappelle, achetés par des particuliers. Par les particuliers qui devaient les mettre à location directement auprès des familles de gendarmes. Sans doute par l'intermédiaire de la gendarmerie quand même. Hein. Alors, je pense qu'il y a un immense scandale là-dessous où on veut essayer de nous faire oublier que ce scandale existe. J'espère qu'il éclatera un jour et qu'il fera très mal. Parce que là-dedans, il y a des responsabilités absolument énormes.
Oui, en attendant, on va aller à la chasse aux papillons avec Georges Brassens.
Voilà, c'est mieux.
Laisser voleter les papillons avant la fin. Donc, revenons à votre statut de député. Vous êtes à Paris. 98, c'est la mise en place ou la formation, la création de l'association ATTAC. Et en tant que député, il y a un groupe ATTAC qui se forme à l'Assemblée auquel vous faites partie.
Tout à fait. Effectivement, en 1998 est née l'association ATTAC. Et les idées développées par l'association ATTAC ont tout de suite intéressé un certain nombre de députés qui se sont sentis concernés. Plusieurs d'entre nous ont décidé qu'on s'est rencontrés à plusieurs, on était une dizaine, qu'il était certainement opportun et utile de créer une section ATTAC à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Et c'est ce qui a été fait.
Il faut dire que ATTAC, c'est la taxation des transactions financières, qui est un sujet qui revient tout à fait d'actualité.
Voilà, qui est plus que jamais là aussi d'actualité. Et comme quoi, On dit la politique ne repasse pas les plats, mais il lui arrive de resservir des recettes pas très différentes des précédentes. Hein. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on sent qu'il faut absolument, si on veut sortir du marasme dans lequel on est, et je ne parle pas seulement de la France, il faut absolument qu'on se mette à traiter comme elle doit l'être la pègre de l'économie et des finances. Parce que c'est ça, c'est une pègre. On parle de la mafia, mais là il y a une mafia financière, et il faut absolument que la politique se décide à traiter cette mafia, cette pègre, comme elle le mérite. Et effectivement, sans en arriver à ce degré, l'association ATTAC a envisagé simplement des taxations modiques d'ailleurs, de 1% sur les transactions financières internationales, ce qu'on avait appelé la taxe Tobin. Alors, on s'est regroupé.
Oui, pas tout à fait. Enfin, c'est une taxe.
C'est parti de la taxe
Tobin.
Oui. Alors, on s'est retrouvé à quelques-uns, et il y avait en particulier, je me souviens très bien, de ma collègue du...
Jean Rigal, on a dépassé les heures, mais on reprendra cette discussion sur ATTAC, parce que c'est intéressant, et en particulier, 99, c'est aussi le McDo, et ça correspond à la mondialisation. On en reparlera la prochaine fois.
D'accord.
Merci Jean Rigal, et mes excuses. Merci.